défaire les carrières à loisir, y compris celle d'Alain Ruscio, pour son histoire ordinaire et extraordinaire du temps des colonies, hein, édition Manifeste.
Bah oui, ma carrière, une partie est déjà derrière moi. Moi.
Mais va repartir, là, vous allez voir, ça va être terrible. Là.
Je n'en ai jamais douté.
Egan Raymond, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
D'accord. Bonjour. Alors, c'est un très bien, le hasard, très bien. On avait Victor Blanc qui devait venir. Il a dû se perdre. Merci, Victor. Bon, alors, le thème de l'émission, c'était Histoire ordinaire et extraordinaire des temps des colonies. Et puis, pof, j'ai appris que vous faites ce spectacle.
Tout à fait.
À Orléans, et à Gérard-Philippe.
C'est ça. À partir, alors, nous avons déjà fait une première au mois de juillet. Et nous reprenons le spectacle dans le cadre du festival Enracinement, Déracinement qui se tient donc fin novembre au théâtre Gérard-Philippe à La Source à Orléans.
D'accord. Alors vous n'êtes pas là par hasard, hein ? Bon, c'est un plaisir, mais ce n'est pas le hasard. C'est-à-dire que c'est un spectacle sur Abbé Bikila.
Tout à fait.
L'historien doit savoir qui c'est Abbé Bikila.
Ah oui, ben moi je me souviens de sa première victoire, c'est un bénéfice de l'âge, hein. Première victoire aux Jeux Olympiques de Rome en 60, et puis c'est vraiment en 64. Il avait récidivé à Tokyo, et c'est vrai que c'était une sorte d'événement, mais je vais vous laisser en parler, mais c'était un Africain qui...
C'est un événement athlétique, parce qu'il est magnifique quand il court, mais aussi politique, hein,
bien sûr.
Parce que j'ai vérifié, on est en 60, hein, mais Mussolini rentre... En 35-36, c'est ça ?
C'est ça, il avait 35. Envahi l'Éthiopie,
ouais. Voilà.
Donc juste avant la guerre. Et donc c'était une victoire un peu symbolique, puisque Abebe Bikila gagnait sur les terres de Mussolini en 1960.
Voilà. Et ce qui est très drôle quand on lit un livre comme ça, les livres d'histoire, et avec ce que vous racontez aussi, c'est qu'on s'aperçoit que le temps est beaucoup plus resserré que ce qu'on peut penser. C'est-à-dire que ça commence à aller mal pour Mussolini, vous me corrigez, hein, en 1940, en Éthiopie à peu près. Hein,
oui, en fait la conquête de l'Éthiopie qui commence en 1935 ne s'est pas faite sur un tapis de rose. Hein, elle était extrêmement difficile et c'était d'ailleurs le début des grands mouvements d'intellectuels antifascistes en Europe aussi. Deux ans après la victoire d'Hitler. Mais avant même le Front populaire, les mouvements antifascistes commencent chez les intellectuels avec André Breton, Aragon, Malraux, enfin tous ces gens-là, Gide, qui s'engagent très très fort pour l'Éthiopie, pour information, la quasi-totalité des membres de l'Académie française à l'époque sont déjà du côté des réactionnaires, comme quoi rien
n'est gratuit.
Rien de nouveau.
Rien n'est gratuit.
Et j'ajoute, pour Mussolini, c'était une sorte de revanche. Ne pas oublier que l'une des premières grandes défaites d'une armée entre guillemets blanche face à une armée entre guillemets de couleur, c'est la défaite italienne d'Adwa en 1896, où les Éthiopiens mettent une véritable, je ne vais pas employer de gros mots, une véritable trempe à l'armée italienne.
Mais si on peut penser, donc entre la victoire d'Abebe Bikila et la, disons, 1940, il n'y a que 20 ans.
Oui, tout à fait.
Il n'y a que 20 ans, c'est-à-dire... Voilà, c'est
bien. Bien sûr.
Mais vous regardez les images romaines du temps du beau temps du fascisme, on nous montre l'Éthiopien encore avec des lances, encore avec des boucliers, c'est le primitif à l'état pur. Et voir ce type qui court nu-pied, qui a une foulée magnifique et qui va tous les rouler dans la farine, c'est qu'à donner. C'est une politique, hein.
C'est très très beau, d'autant plus qu'il arrive en fin de journée avec les flambeaux qui sont allumés sur le parcours, sur la fin du parcours. Et donc vraiment, pour les Jeux Olympiques et pour l'Éthiopie, eh ben, cette arrivée donc, dans Rome avec les flambeaux, c'est comme une victoire sur le fascisme.
Et ceux qui voient ces images-là, au niveau esthétique, c'est une merveille. Hein. Belle foulée. Vite, avant qu'on commence à descendre dans le livre d'Alain, là, sa fin est tragique.
Sa fin est tragique, effectivement. Donc, il a gagné également les Jeux Olympiques en 1964. Et puis, deux ans après, il a eu un accident avec la voiture que lui avait offerte l'empereur, justement, pour sa réussite à Rome.
Une deux chevaux ?
Une deux chevaux.
D'accord.
Et malheureusement, donc il est resté pratiquement une nuit enfermé dans la carcasse de la voiture avant d'être hospitalisé. Et suite à cela, il va quand même avoir Il va quand même vivre quelques temps parce qu'il va quand même faire les Jeux Olympiques dans une autre discipline, mais on va dire c'était l'ancêtre des Paralympiques. Mmh. Et puis finalement, il va quand même mourir d'une attaque cérébrale à l'âge de 40 ans.
Destin terrible. Voilà. Donc, histoire ordinaire et extraordinaire du temps des colonies aux éditions, j'allais dire du beau temps des colonies, comme on disait dans le temps, aux éditions manifestes. J'ai fait lire ce livre à quelqu'un qui débute dans tout ça, qui découvre, et qui m'a dit une réflexion naïve et qui est juste. Il m'a dit, qui est juste ou faux, c'est à l'historien de le savoir, hein. Est-ce que y a synonyme entre colonisation et esclavage?
Il y a, disons, un prolongement dans le temps. Disons que la parenthèse ouverte par les grandes découvertes des îles à sucre et de l'Amérique, ce qu'on appelait par la suite latine, fin 15e, début...
Ça, c'est très tôt, hein.
C'est très tôt, fin 15e, début 16e. Cette parenthèse qui est ouverte, c'est la parenthèse qui est ouverte sur la domination de l'homme blanc. Sur la totalité du monde, sur la totalité des races, puisqu'on employait... à la radio, c'est difficile de mettre des guillemets, mais sachez que je mets des guillemets à ce mot. Et donc, jusqu'à pratiquement le début du XXIe siècle, cette parenthèse ne s'était pas refermée. Bon, aujourd'hui, avec les basculements dans les rapports de force internationaux, il y a évidemment des choses qui sont en train de bouger. Mais disons que l'esclavage, la traite négrière et la colonisation... Et aujourd'hui, la mondialisation, qui est à mon avis un mot cache-sexe, moi je préfère parler d'impérialisme, l'impérialisme qui domine le monde, c'est trois façons différentes de l'Occident de dominer le monde.
Ces grands intellectuels, c'est Giraudoux qui voulait un ministère de la race.
Oui, Giraudoux, tout à fait.
Ah, c'est quand même quelque chose de...
Il avait écrit ce livre avant le début de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il était un précurseur. Il avait d'ailleurs clamé son admiration pour les théories d'Hitler.
J'ai raconté une histoire quand j'ai fait une émission avec Françoise Vergès il y a quelques temps, et on avait commencé par une histoire comme ça. Une dame qui vient faire le ménage. Noire, malienne, qui vient faire le ménage, qui fait 2 heures de transport, qui travaille 1h30, qui remplit un papier en signant, qui repart, qui refait 2 heures, qui va dans un autre endroit pour faire les toilettes, la serpillière, qui remplit un papier, qui refait 2 heures, et qui fait ça toute la journée.
Et oui.
Cette dame, ce qu'on appelle les invisibles, elle avait son foulard, très digne, comme ça, jamais un mot, puis un jour elle a disparu. Et on a appris qu'elle était morte du cancer. C'est de l'esclavage ou pas?
C'est l'esclavage moderne, incontestablement.
Oui, non?
Oui, tout à fait. Moi, je suis...
Oui, moi aussi. Non.
D'accord.
C'est pour ça que j'y pensais en faisant...
Oui. Mais en fait, l'invisibilité des autres, c'est consubstantiel à l'esprit colonial. Les autres ne sont que des éléments du décor. Regardez, par exemple... La façade du ce qui aujourd'hui est le musée de l'immigration, qui naguère était le palais des colonies. Cette façade du point de vue artistique est très belle.
Esthétiquement, c'est magnifique.
Esthétiquement, hein. on peut ouais. ne pas aimer ce type d'art très très réaliste, mais en tout cas c'est très beau. Mais c'est quoi? Des indigènes dont un certain nombre d'entre eux sont nus, enfin d'entre elles en l'occurrence, surtout les femmes, des animaux et des végétaux. Donc, l'état de nature est là exposé, et par-ci par-là, on voit un blanc qui, avec le casque colonial bien connu, qui est le conducteur de travaux, qui est l'ingénieur, qui est le technicien, etc. Donc voilà, l'invisibilité, comme je le disais, est fait partie totalement du regard colonial et du comportement colonial. Dans le livre, je parle de... Il y a beaucoup d'anecdotes dans lesquelles je décris les rapports humains à l'état brut, c'est-à-dire les hommes colonisés, les femmes colonisées, ne sont pas considérés comme des êtres humains. Ils sont considérés comme des meubles. D'ailleurs, le mot meuble apparaît dans le Code noir de 1685.
Alors, si on va très très rapidement, il y a, pour commencer, les îles à sucre.
Oui.
Les îles à sucre. Après, vous me corrigez, hein, après, il faut attendre 1830 et l'Algérie. Quand même, on schématise. Hein, on,
Oui, en fait, les îles à sucre, d'abord, il y a une sorte de chevauchement chronologique entre la conquête de l'Algérie 1830 et la seconde, et heureusement définitive, abolition de l'esclavage en 48.
C'est ça. Donc,
pendant ces 18 années. Mais bon, l'abolition de l'esclavage n'a évidemment pas mis fin aux discriminations raciales, aux discriminations sociales dont étaient victimes, en particulier les Antillais, les Réunionnais, les Kanaks, de ce qu'on appelait naguère la France d'outre-mer, où aujourd'hui on parle encore de l'outre-mer.
Et qui a fait le plus fort, c'était la Troisième République.
Oui, alors, moi j'ai toujours un petit sourire, je dirais sourire crispé quand même, quand j'entends un certain nombre de nos politiciens, tout bord confondu d'ailleurs, qui nous parlent des valeurs de la République. C'est quoi les valeurs de la République ? La Troisième République a été quand même la plus grande puissance expansionniste de l'histoire française. Entre 1870, début de la Troisième République, et disons la veille du premier conflit mondial, 1914, la Troisième République a conquis des territoires entiers, une grande partie de l'Afrique subsaharienne, une grande partie de l'Indochine.
L'Indochine aussi, oui.
Évidemment, l'Algérie s'était déjà fait, mais évidemment le Maroc, la Tunisie, etc., etc. Donc, et pour y imposer quoi ? Eh bien, le régime de la chicotte. Hein, je rappelle que la chicotte, c'était une sorte de matraque qui servait à faire marcher droit les nègres, comme on disait à l'époque, pour mettre en place le régime de l'exploitation pure et simple et de l'inhumanité, je dirais, programmée et officielle des indigènes.
Gagnerait. Est-ce que vous faites jouer dans le théâtre, Troisième République, c'est le règne au niveau du théâtre de Feydeau.
Oui.
Feydeau, vous connaissez un peu Feydeau ?
Un petit peu, oui.
Et ça, c'est extraordinaire. C'est comment vous savez qu'il a fini complètement dingue, Feydeau, là. Comment un auteur montre sa propre classe sociale en train de se déliquesser ?
Oui.
C'est-à-dire, c'est l'agiotage,
le cocufiage.
Le cocufiage, il y a tout ça. Et en arrière-fond, il y a tout le phénomène colonial.
Oui, bien sûr.
Ah, oui.
Oui, tout à fait. Oui. Mais bien avant lui, je pense que Marivaux avait aussi mis le doigt sur le phénomène colonial.
Bien sûr.
Et d'une autre façon, un autre type de théâtre. Et bien sûr, évidemment, Shakespeare, qu'on connaît tous.
Voilà. D'accord. On va écouter un tout petit peu de musique et puis on va plonger dans le livre.
Hein, d'accord.
Oh bah, merci Monique, sur Radio Liberté, au 01 43 71 89 40. Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce que vous racontez ? Vous êtes toute seule en scène ou vous êtes plusieurs ?
Ah non, pas du tout, nous sommes 5 sur scène.
D'accord.
Donc la pièce est produite et réalisée par Thierry Falvisaner, donc, qui est également comédien sur scène, qui joue le rôle d'Oni Niskanen, qui était donc l'entraîneur d'Abebe Bikila. Et c'était un entraîneur suédois, donc l'empereur avait fait venir cet entraîneur pour pouvoir justement faire les équipes nationales devenir plus prospères. Il y a également un danseur qui s'appelle Timothée Ballot, donc il joue le rôle d'Abebe Bikila en dansant. Donc il a vraiment tout un parcours avec une piste sur laquelle il débute sur un mouvement très très lent jusqu'au final où donc il explose, on va dire. On a également un deuxième comédien qui s'appelle Thomas Serisola, qui lui joue le rôle d'un journaliste de l'époque, donc vraiment avec des allers-retours réguliers donc entre l'époque actuelle et l'époque enfin en 1960. Et en dernier, on a un musicien qui s'appelle Adrien Chenbeau, qui rythme tout le spectacle.
D'accord. Voilà. Bah, tout à l'heure, on écoutera quelques bribes tout à l'heure.
Ben oui, avec
si
grand
vous
plaisir.
Voulez, okay. Quand on lit votre livre, là, bien sûr qu'il y a une lecture politique à faire du colonialisme et de l'esclavage. Je suis le premier à le faire. Là. Mais ça commence, votre premier exemple que vous prenez, on ne rentre pas dans le politique, on rentre quasiment dans la magie. Vous savez, vous vous souvenez, c'est vous qui avez écrit le livre ou pas?
Oui. A priori.
Une mauresse de sang royal. Vous racontez l'histoire vite fait?
Préalable, je vais évidemment vous répondre. J'ai écrit un certain nombre de livres sur l'esprit colonial. Celui-ci a la particularité, me semble-t-il, d'être une sorte de voyage à travers la vie quotidienne. C'est ce que j'ai voulu un petit peu marquer grâce à une documentation que j'ai accumulée depuis des années. Et je me suis dit qu'effectivement, il pouvait y avoir des grandes démonstrations sur les structures, sur les relations, sur les causes, les racines de l'implantation coloniale. Mais que finalement, il était également, c'est complémentaire, j'oppose pas les choses, mais il était également intéressant de montrer au public, ceux qui voudront bien me lire, la quotidienneté des relations humaines ou des relations que j'appellerais d'ailleurs plutôt inhumaines. Bon, voilà, c'est un petit peu pour ça que c'est une sorte de kaléidoscope sur de plusieurs situations qui d'ailleurs balayent la quasi-totalité, je crois, des colonies françaises, et si ce n'est la quasi-totalité des périodes, en tout cas, effectivement, ça commence fin 17e et ça se termine au moment de la guerre d'Algérie. La première histoire, c'est la mauresse de Moret-sur-Loing. Donc, c'était la fille naturelle, semble-t-il. Après, les explications divergent. Et était-ce la reine qui avait fauté avec un aigrillon, comme on disait à l'époque? Il faut savoir qu'il y avait une sorte de mode qui a été dénoncée, d'ailleurs, par certains, au XVIIe, XVIIIe siècle, de garder dans les grandes familles nobles, voire même à la cour, des noirs qui étaient en général des esclaves amenés par des colons dans les ports de l'Atlantique, Nantes, Bordeaux, et qui ensuite se retrouvaient un petit peu comme des animaux de compagnie. C'est en tout cas comme ça que les choses étaient vécues. Mais les animaux de compagnie peuvent avoir parfois une certaine sexualité, et donc il semble bien que la reine de France, je ne sais même plus laquelle c'était, d'ailleurs c'était l'épouse de Louis XIV, mais bon, c'est pas ma grande spécialité, l'histoire des rois et des reines, ait eu quelques faiblesses avec un serviteur noir, mmh. Et donc elle a accouché d'une petite fille, ouais, qui était très brune. Et donc, évidemment, ça a pu paraître à l'époque quelque chose d'étonnant. Ouais. Et elle n'a pas été éliminée physiquement, bien sûr, ni même socialement, mais elle a été envoyée au couvent. Et donc, elle était au couvent de Moret. Et on a très vite appelé la Moresse, donc le féminin de Mort. Hein. Et donc, tout simplement, parce qu'elle était pas comme les autres. Oui, oui. Il était pas imaginable.
Les croyances sont telles qu'on en arrive même à supposer que c'est quasiment par capillarité. Qu'il n'y a pas de sexe. Vous me regardez, je vais de. C'est comme ça qu'on arrive à.
Tout à fait. Il n'y a pas d'identité.
Il n'y a pas d'identité. C'est-à-dire il y a une influence de vous me regardez, vos yeux sont noirs, donc je vais être. Oui, oui. Et donc là, c'est quand même le phénomène. On n'est pas dans le politique, on est dans une forme de croyance et de magie, là.
Oui, on est dans une forme de magie, on est dans une forme de, je dirais, c'est le degré zéro du mépris humain, parce que bon, cette fille, elle n'avait pas demandé à naître, et puis une fois qu'elle est née, elle avait vécu recluse dans des conditions matérielles qui étaient sans doute très bonnes, ça c'est pas la question, mais elle n'était pas montrable, elle n'était pas regardable pour l'ensemble du monde. Mais vous savez, il y a d'autres, il y a un roman par exemple du début du 19e siècle d'une certaine Madame de Duras, rien à voir avec Marguerite Duras bien sûr, donc début 19e, qui s'appelle Ourika. Ce roman montre, c'est une, l'histoire d'une, d'une jeune esclave qui a été adoptée et qui a été considérée comme, la fille d'une, d'une princesse. Donc elle était très très bien, elle était aimée, elle était choyée, mais à un certain moment, elle surprend une conversation où sa mère dit, enfin sa mère adoptive, dit « Hélas, elle arrive maintenant à l'âge du mariage et je ne pourrais pas la marier, elle est immariable ». Et donc, elle dit dans le roman, c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais noire et que ma vie ce serait. Et Eureka, ça a été un très très grand succès de littérature du début du 19e. Et dans ce roman, on montre justement le fait de l'extrême limite qui n'était absolument impossible de franchir.
Mais vous voyez, vous connaissez cette fameuse pièce, la controverse de Valéloïde, vous la connaissez?
Bien sûr.
Vous
la connaissez,
d'accord.
Vous connaissez?
C'est simple, c'est au 16e. C'est l'Église qui a fait une espèce de tribunal. Vous avez celui qui est au milieu, c'est le juge. Il y en a un qui est là pour démontrer que c'est sûrement des Boliviens ou des Sud-Américains, ne sont pas des humains. Il y a un qui fait pour démontrer qu'ils sont des... Et on passe comme ça, on joue sur l'inconnu. C'est-à-dire, on joue, est-ce que lorsqu'ils ont un chagrin d'amour, ils se mettent à pleurer? Alors, s'ils se mettent à pleurer, c'est des humains, etc., etc. C'est un jeu comme ça. Mais tout ça, c'est l'inconnu. Ça, on n'est pas dans le politique, on est dans l'inconnu, là, non?
Oui, bien sûr. Hein? On retrouve la même chose. Par exemple, les bons pères missionnaires aux Antilles, par exemple, punissaient d'une façon extrêmement sévère, par exemple, les relations amoureuses, enfin les relations sexuelles même, entre esclaves qui n'étaient pas mariés, par exemple. Je cite dans mon livre un missionnaire qui dit le noir en question va être horriblement mutilé et même torturé, le mot. Et le missionnaire dit oui, mais il fait. En fait, ils ne ressentent pas la douleur de la même façon que nous.
C'est ça.
Donc, ils n'appartiennent pas à l'humanité. Je veux dire, après, il y a des graduations. C'est, au fur et à mesure que les décennies vont passer, il va y avoir des évolutions. Bon, cette inhumanité du regard va peu à peu laisser place à une sorte de racisme moins agressif, disons. Mais l'inhumanité préside au début des regards des Blancs sur les autres races.
Je vous le disais hors antenne, parmi les choses qu'il y a dans votre livre, là, c'est la bêtise. Même des gens qui sont des intellectuels, font acte de bêtise par rapport à ça. Vous avez Théophile Gautier. Je crois qu'on a là, on va atteindre Dieu. A atteint des couleurs graduées, les différentes races, selon leurs valeurs d'intelligence, depuis le blanc mat jusqu'au noir d'ébène. Les cerveaux obscurs font les peaux sombres, les nuances iront toujours s'éclaircissant, et l'on peut prédire hardiment que dans quelques milliers d'années, il n'y aura plus de nègres, même au cœur de l'Afrique.
C'est un peu étonnant d'entendre ce genre de choses, d'autant qu'on sait que le berceau de l'humanité, c'est quand même l'Afrique.
Voilà. Et on tombe sur des séances de bêtises comme ça.
Moi j'en ai une autre à votre service. 1909, un certain Guyot écrit la chose suivante. L'Orient fut, l'Orient donc au sens qu'on dirait aujourd'hui Moyen-Orient, fut l'immobilité même, encore que quelques Arabes aient fait de l'algèbre.
Ah c'est...
1909, début du 20e siècle.
Qui a écrit ça?
Un certain... Guyot, l'apologétique de Brunetière, librairie classique. J'ai trouvé ça sur le site de la Bibliothèque nationale. Il y a beaucoup de références.
C'est remarquable.
Et donc, quelques Arabes ont pu faire de l'algèbre. Quand on sait que c'est la science arabe qui a été la passerelle entre la science antique et la science contemporaine, et que sans le monde arabo-musulman, eh bien, un certain nombre de découvertes scientifiques n'auraient pas pu apparaître en Occident. On dit, quelques Arabes ont fait de l'algèbre, oui. Donc voilà, quand vous dites la bêtise, quand la bêtise s'additionne à la brutalité, vous voyez ce que ça peut impliquer.
Oui, on est absolument d'accord là-dessus, rassurez-vous.
Je ne suis pas inquiet.
Alors,
Ken Loach, ça vous inspire, Ken Loach ?
Bien sûr, oui.
Oui, ça vous inspire, oui. C'est magnifique, Ken Loach. Il est important de rappeler que la colonisation ne signifie pas que des personnes d'un pays en colonisent un autre. Il s'agit de la classe dominante d'un pays qui choisit d'en coloniser un autre. La classe dirigeante britannique a colonisé ou envoyé des enfants de la classe ouvrière coloniser des pays pour elle. Ces gamins qui sont allés se battre ont été forcés de le faire pour récupérer des ressources qui n'ont pas profité aux classes ouvrières. Le plus grand ennemi de Churchill, ce grand impérialiste qui croyait fermement à l'Empire britannique, a été juste jusqu'à la Seconde Guerre mondiale la classe ouvrière de son propre pays. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, moi je nuancerai parce que l'anticolonialisme pur de la classe ouvrière ou des masses populaires est à mon avis un cliché. C'est une perspective, et incontestablement dans les élites politisées de la classe ouvrière, chez les dirigeants des syndicats, par exemple, il y a eu effectivement des mouvements anticolonialistes puissants. Je rappelle quand même que la première grande grève nationale et générale contre une expédition coloniale, c'est au moment de la guerre du Rif, une grève générale décrétée par la CGTU, qui était le syndicat qui était à cheval, disons, entre le Parti communiste et le monde libertaire, justement, puisque la CGTU a été créée par les deux, et puis les communistes. Il y a eu donc des mouvements. Il y a eu des mouvements ouvriers contre la guerre d'Indochine, contre la guerre d'Algérie. Mais massivement, on ne peut pas dire que les masses populaires aient été, dans leur généralité, anticolonialistes, militantes, actives. Il y a eu des mouvements. Mais bon, et je crois qu'on a peut-être un petit peu de mal, mais c'est peut-être justement le travail des historiens, et moi c'est ce que j'essayais de faire avec ce livre, on a du mal à se rendre compte de ce qu'était le poids de la propagande du parti colonial. Je crois que notre génération, à plus forte raison les plus
c'était
jeunes...
C'était un parti colonial.
Alors, ce qu'on appelle parti colonial, on devrait l'appeler le lobby colonial, pour être plus précis. Mais le terme parti a été utilisé à l'époque. Le lobby colonial était hyper puissant. Il avait tous les moyens de diffusion de la presse aux manuels scolaires. Regardez ce qu'écrivaient les manuels scolaires jusqu'à la 4e République. À la 4e République, on voyait encore les faciès des nègres, des arabes, des blancs et des jaunes. Donc, les manuels scolaires. Le cinéma, regardez l'image de l'arabe dans Pépé le Moko, par exemple. La chanson.
Oui, la chanson.
La chanson. Moi, j'ai fait un livre sur la chanson, donc que j'avais présenté ici.
Il y a une chanson de Michel Simon ou Arletty, Mon Petit Négro, vous la connaissez pas ?
Oui, c'est
qui est redoutable.
Ma tonkinoise, regardez, on envisage de mettre Joséphine Baker au Panthéon. Bon, j'ai du respect pour la mémoire de cette dame, mais c'est quand même une dame qui a chanté jusqu'à la fin de sa vie Ma Petite Tonkinoise, alors qu'elle était native de Saint-Louis du Missouri.
Qui, au niveau de l'humour,
c'était quand même... Donc tout ça faisait... Moi, je me souviens, mon père me disait, il chantait « C'est nous les Africains ». Et un jour, je lui dis, mais tu sais que c'est une chanson raciste. C'est pas une chanson raciste, on rigolait, on était entre nous, on était dans les troupes. Enfin, mon père était militaire appelé, hein, il n'était pas du tout de métier. Mais c'est nous les Africains. Et lorsqu'on lit donc les Africains qui revenons de loin pour libérer le pays, donc libérer la France, c'était donc les soldats indigènes qui venaient libérer la France. Et le dernier couplet, c'est « Et lorsque la guerre sera finie, nous retournerons dans nos gourbis ». Je n'invente rien. Donc tout ça, ça pénétrait d'une façon insidieuse la bande dessinée pour enfants. Bon, tout le monde connaît Tintin au Congo, mais il y avait des centaines, les pieds nickelés. Bécassine avait adopté un noir pour. Elle était marraine de guerre d'un tirailleur sénégalais. Enfin, tout ça faisait que le bourrage de crâne a magnifiquement fonctionné. L'exposition coloniale de 1931 a eu 8 millions de visiteurs. À l'époque où la France avait à peu près 42-43 millions d'habitants.
Victor Blanc aurait dû être là. Il m'a alléché avec un livre. Je ne sais pas si c'est sous presse ou c'est un projet qu'il a. C'était Aragon et le colonialisme.
Je connais l'auteur.
Vous connaissez l'auteur? Vous pouvez en dire quelques mots, vous savez de quoi ça traite ou pas?
Ben, c'est moi l'auteur.
C'est vous l'auteur? Ah ben, c'est bien, c'est bien. Alors, allez-y, c'est bien. Alors, on a peut-être cuit, allez-y, allez-y, allez-y.
Alors bon, effectivement, j'ai proposé ça au Manifeste et à Victor. Ben, c'est simple, c'est un parcours de vie. Hein.
D'accord.
J'étais un petit peu excédé de voir l'oubli ou le mépris dans lequel est tombé Aragon, qui a eu des moments staliniens absolument inaudibles aujourd'hui, mais qui a, sur les questions coloniales, eu des comportements permanents de ses premiers engagements, la guerre du Rif.
Ça, c'est tous les surréalistes. Hein.
Oui, bien sûr. C'est vrai, seul, oui, hein. Oui, non, mais moi, j'ai fait un livre. D'accord. Mais je cite au passage, bien sûr, André Breton, Pierre Unique, Desnos, Éluard, bien sûr, tous les surréalistes, vous avez raison. Mais bon, Aragon, il se trouve qu'Aragon est devenu communiste pendant la guerre du Rif et qu'il est resté jusqu'à la fin de sa vie. Et qu'il a véritablement mené des combats contre la guerre du Rif. Par exemple, la protestation contre la conquête de l'Éthiopie, dont on parlait à l'instant, Aragon a été parmi les signataires. Certains disent même qu'il était peut-être le rédacteur de l'appel. Jusqu'à la guerre d'Algérie, alors que la plupart du temps, son nom n'est jamais prononcé. Aragon a été à la tête de l'hebdomadaire Les Lettres Françaises, a écrit énormément d'articles, ou fait écrire des articles contre la guerre d'Algérie, découvert un certain nombre de grands auteurs algériens, par exemple Mohamed Dib attendait pas après Aragon pour avoir du génie, mais en tout cas c'est Aragon qui l'a fait connaître au public français. Kateb Yassine.
Ça allait très mal entre Aragon et Aimé Césaire.
Oui,
très très mal.
Je consacre,
il fallait venir avec votre livre, écoutez.
Mais il n'est pas encore.
Ah bon, d'accord, on revient comme ça. Ah. C'est pour revenir que vous avez fait ça.
Et donc
en 56.
Avant 56, Aragon était un homme qui avait une sorte d'emprise sur le monde intellectuel en général du moment de la guerre froide, en tout cas sur les gens qui étaient de gauche, et plus précisément bien sûr sur les communistes. Et les relations avec Césaire étaient exécrables, probablement parce que Aragon n'appréciait pas non plus qu'un auteur qui pouvait lui faire un petit peu d'ombre, parce que c'était
bon aussi pour Roger Vaillant, hein.
Oui.
Le rapport n'est pas bon non plus.
Oui, oui.
D'accord. Bon, quand Césaire fait cette lettre, c'est la lettre à Maurice Thorez,
oui.
Là.
Oui, 56.
56, hein, c'est 56. Il fait cette lettre, il explique que c'est pas seulement une rupture, c'est pas une rupture de classe. C'est-à-dire qu'il dit que le parti n'a pas eu un bon œil sur le monde de la colonisation.
Oui, c'est plus compliqué que ça.
Allez-y.
Disons que le raisonnement de Césaire est de dire que les communistes sont passés à côté d'un signe d'égalité entre les luttes ouvrières, les luttes révolutionnaires en France et les luttes des peuples colonisés. C'est-à-dire qu'il y avait chez les communistes une sorte de hiérarchie qui disait que les luttes, le cœur du combat révolutionnaire, c'était le combat de la classe ouvrière en métropole, et que les luttes des peuples colonisés étaient en quelque sorte un appoint. Et donc c'est cette hiérarchie que Césaire a dénoncée, mais Césaire n'a jamais prétendu que les communistes étaient comme les autres courants politiques. N'oublions pas quand même, parce qu'il faut quand même garder raison, que les socialistes ont mené d'une façon extrêmement violente et la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Sans parler bien sûr de la droite. On pourra parler éventuellement, puisqu'on n'est pas très loin de l'anniversaire du décès du général de Gaulle, on pourra parler éventuellement du général de Gaulle. Donc Césaire a claqué la porte et ajouté une chose, c'est que dans les années 50, quand on claquait la porte du PC, c'était toujours dans des circonstances dramatiques et dans des polémiques qui n'en finissaient pas. Donc c'est ça qui a ajouté encore au désaccord profond et définitif entre Césaire et les communistes.
Bon, on lira ce livre, promis, puis vous viendrez nous en parler.
C'est bon,
enfin, on va écouter un peu de musique et puis je vais vous faire travailler, mademoiselle.
Ah bah, avec
d'accord, plaisir. Après, okay. Alors, un peu de merci. Allez bébé, Biki là, travaillez.
C'est parti. Hop. Un jour, il m'a dit je vais à Rome. Comme ça. Je vais à Rome, Yerwebdar. Rome ? En Italie ? Et puis quoi ? Comme s'il disait je vais à Rome, je vais chercher de l'eau, Yerwebdar, ou quelque chose comme ça. Mais je le savais déjà. Avec tous ces entraînements durant lesquels tu le poussais, toi, le Suédois, à devenir un homme qui ne pense qu'à courir. Un homme déterminé, sans qu'il n'ait rien à prendre, ni rien à fuir. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, Yerwebdar. Et je ne m'inquiétais pas. Qu'un homme veuille courir est dans l'ordre des choses, puisque les hommes ne pensent qu'à ça. Vaincre et courir. Les hommes sont comme ça. Et nous étions si jeunes en ce temps-là. Il m'a dit, je vais vaincre à Rome. Mais ça aussi, je le savais déjà. L'empereur Haïlé Sélassié l'avait dit avant lui. Vaincre à Rome, c'était comme vaincre 1000 fois. Du baratin de podium. Et puis quoi ? On fait courir des gens pour bien moins que ça.
Merci. Donc cet extrait, on rappelle.
Voilà, c'est le début de Vaincre à Rome, que je vous invite à venir voir donc, au TGP, Théâtre Gérard Philippe, à la fin de ce mois-ci, c'est-à-dire entre le 24 et le 26 novembre à Orléans.
Et vous ne partez pas, parce que vous allez encore travailler. Hein, je tiens à vous le dire. Alain.
Oui.
Je suis toujours là.
Toujours là. Alors, parce que vous brûlez quand même de nous parler un peu de ce qu'a été la pensée anarchiste et libertaire par rapport au colonialisme. Vous êtes là pour ça aussi.
Oui.
Donc vous avez un passage, vous l'avez là ?
Oui, je
le fais. Père Pénard, c'est Pouget.
Est-ce que je peux enchaîner avant sur le sport ?
Ah oui, allez-y, au contraire.
Dans mon bouquin, il y a deux, trois références au sport, et je vous en cite une, par exemple, il y avait un hebdomadaire sportif qui s'appelait Match, rien à voir avec le Paris Match d'aujourd'hui, qui s'appelait Match, bon, tout simplement Match, sous-entendu, de sport. Et le 31 janvier 1928, cet hebdomadaire publie un reportage sur les aptitudes des indigènes nord-africains, on disait nord-africains à l'époque, à faire du football. Je vais vous lire le texte parce que c'est bien intéressant. Donc, citation, 1928. « Il n'est pas douteux que dans les sports individuels, les Algériens, les Arabes même, ont accompli de grands progrès. Dans les sports collectifs, ils restent quelque peu en arrière. Ainsi étonné, pour ne citer qu'un seul exemple, il est presque impossible de faire comprendre aux indigènes les subtilités du football. » Et cependant, pris individuellement, certains d'entre eux ne sont pas du tout de mauvais footballeurs. Mais former une équipe avec des Arabes ou bien exclusivement composée de Marocains, et malgré la meilleure volonté que vous apporterez à leur inculquer les principes élémentaires du football, vous serez déçus des maigres résultats que vous obtiendrez. Donc pour mon commentaire, par la suite, quelques enfants d'indigènes, de Rachid Mekloufi à Zinedine Zidane, eurent quelques succès avec les subtilités du football. Voilà, et juste pour rigoler, 10 ans plus tard, en 1937, l'équipe composée uniquement de footballeurs marocains, dont le célèbre Larbi Ben Barek, avait battu la France, l'équipe de France, par 4-2, 11 avril 1937. Bon, voilà.
C'est ça, oui. On revient à des bêtises. Il y a des bêtises.
C'est l'intériorisation. Jusqu'au plus profond de la conscience de la théorie de l'inégalité des races, quoi. Finalement, individuellement, on peut toujours citer un arabe ou un noir qui était sympathique, voire même capable peut-être de faire un petit peu d'études, d'avoir un peu d'intelligence, mais collectivement, c'est quand même des peuples définitivement soumis. Entre-temps, j'ai perdu la page de... Non. Alors, bon... nous sommes ici dans le studio de Radio Libertaire, et si ça n'a pas changé, le studio s'appelle Louise Michel, toujours, j'imagine.
Non, pas du tout. Il s'est appelé Louise Michel. Ça y est.
Bénéfice de l'invitation présidentielle. Alors, Les libertaires, le courant anarchiste plus généralement, avant 1914, a été le fer de lance de la protestation anticolonialiste. Vraiment très très fort, à une époque où le Parti Socialiste était quand même très tiède, ou très peu engagé sur la question, à la belle exception de Jaurès, bien sûr, qui a sauvé l'honneur du socialisme français. Mais bon, et c'était quand même le seul qui vraiment a été très actif. Alors, les anarchistes, en particulier dans la presse, alors le Père Pénard, qui était un organe extrêmement connu, et puis bien sûr l'Assiette au beurre. L'Assiette au beurre qui était un livre de... une revue de caricature féroce où on dessinait Jossot, Stenlen, Delannoy, enfin vraiment les très très grands noms de la caricature début de siècle. Alors dans le Père Pénard, j'ai trouvé un texte. Alors le Père Pénard dirigé par un anarchiste appelé Émile Pouget.
Émile Pouget
qui avait un style très particulier.
C'était le Père Duchesne un peu.
Oui, voilà, c'était un petit peu l'enfant du Père Duchesne, quoi. Alors, il parle d'une insurrection algérienne, article de 1897 quand même. Donc c'est la façon d'écrire du Père Pénard. Alors, les Arbis, ça veut dire les Arabes, hein, sont de race noble et fière, qui, au lieu d'être traités en amis par notre gouvernail, ont été avilés au possible, et qui se souviennent des affronts subis. On a rasié leurs troupeaux, on a violé leurs femmes et leurs filles, on a chapardé leurs terres. Et ça fait, on leur a dit, soyez bien sages, etc., etc. Alors, il continue, et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est pas seulement la protestation, c'est le regard sur l'insurrection qui vient, on peut appeler ça comme ça, en disant, vous avez l'impression que vous avez mis ces peuples colonisés à genoux, ils attendent le moment propice pour se relever et vous foutre à la porte. Donc c'est, je répète, 1897, c'est quand même donc 50 ans avant, un peu plus de 50 ans même, avant le début de la guerre d'Algérie. Alors, je reprends la citation, « Il y a 20 ans que les Arabes roupillent, leur sommeil durera pas à perpète. Est-ce que ce coup-ci qu'ils s'éveillent ? Peut-être bien. Des couillons serinent. C'est la guerre sainte. Et cherchant midi à 14h, explique sans rire que les Algériens se rebiffent parce que les Turcs ont fichu une branlée aux Grecs. C'est le texte de... Et donc, le grabuge algérien n'est pas si compliqué. Ce que veulent les Arabes, c'est simplement rentrer en possession des terres qu'on leur a chapardées. C'est être maître chez eux. C'est pouvoir vivre à leur fantasia sans qu'un caporal vienne leur imposer sa consigne. Donc c'était quelques années plus tard, c'était pas un caporal, c'était un général, général Salan et toute la clique de l'OS. Donc voilà ce regard très rare à l'époque, disant le colonialisme aura une fin, quoi. En gros,
c'est très visionnaire. Tout à l'heure, on parlait de Brocard. Oui. Pourquoi je vous en parlais de Brocard ? Parce que j'ai fait des missions il y a une quinzaine de jours. Monique était moi, elle était là aux manettes comme toujours. C'est extrait de la revue Empreinte, et c'est un docteur, le docteur Charles Binet Sanglet. Ça vous inspire ? Alors, je veux dire simplement, et puis après je vous dirai pourquoi, c'est un rapport avec Brocard. Dans l'intérêt de l'humanité, et dans l'intérêt même, il faut empêcher des sujets d'engendrer ou de... Alors, on a 7 procédés pour trier les sujets, hein. On a la destruction des mauvais générateurs, leur internement, la castration, l'interdiction du mariage, la prophylaxie anticonceptionnelle, l'avortement provoqué et l'infanticide. Ben voilà. Donc ce monsieur est né en 1868 et mort en 1941. C'est quasiment il est avant Hitler, il a bien compris ce qui va se passer. Et je l'ai appris la semaine dernière, jusque sous Giscard, il y avait un prix qui était remis aux étudiants en médecine, le prix Charles Binet Sanglet.
Magnifique.
Magnifique, hein. Magnifique. Et un peu comme Brocard, comme quoi ça a perduré, cette bourgeoisie a...
Oui, moi j'ai souvent polémiqué avec des collègues ou des Français moyens qui disent c'est Le Pen qui a inventé le racisme. Le racisme est une sorte de reprise du racisme hitlérien, donc on pourrait dire aujourd'hui un certain Monsieur Z qui reprend les mêmes thèmes ou qui les aggrave même encore. Le racisme à la française a existé. Il ne s'agit pas de battre notre coule, puis il ne s'agit pas de dire que tous nos grands-parents étaient des salauds, des naïfs. Il s'agit de voir cette réalité en face. Le professeur Brocard, qui aujourd'hui encore a une rue en France, à Paris, peut-être même ailleurs, et un hôpital, l'hôpital Brocard, a été le fondateur de la Société d'anthropologie de Paris. qui a été créé en 1859. Qui était en quelque sorte la justification par la science, là aussi les guillemets nécessaires, de l'inégalité des races. Donc Broca, et je n'invente rien, c'est facile à vérifier, hein, et je vous signale d'ailleurs que les bulletins de la Société d'anthropologie de Paris sont numérisés sur le site de la Bibliothèque nationale, donc ceux qui veulent vérifier ce que je dis peuvent le faire. Broca disséquait des cadavres, ouvrait les crânes, pesait les cerveaux. Il pesait les cerveaux. Et comme par hasard, les cerveaux des Blancs étaient toujours plus lourds que le cerveau des Arabes, des Noirs, et les derniers, c'est les Kanaks. Mais je vous signale au passage que les cerveaux, à corpulence égale, les cerveaux des hommes étaient toujours plus lourds que les cerveaux des femmes. C'était l'instrumentalisation de la science pour justifier le racisme et pour justifier la domination coloniale. Et ces gens-là n'étaient pas des hurluberlus isolés, des savants fous en quelque sorte. La Société d'anthropologie de Paris regroupait la fine fleur de la recherche scientifique française. Broca a été d'ailleurs un opposant au Second Empire, et il a été ensuite sénateur sous la Troisième République. C'était des gens qui étaient bien en cours, qui étaient des gens extrêmement écoutés, honorables et honorés par les ordres de la République.
Bien sûr. Petite parenthèse, on va revenir au début de l'émission très rapidement. Il y a un livre, en tant qu'historien, c'est Le Voyage d'Annon, le navigateur. Ça vous inspire? C'est 5 siècles avant Jésus-Christ, carthaginois. Qu'est-ce qu'il part? Il part de Carthage, il descend le fleuve Congo, il arrive à hauteur du Cap Vert. Hein, et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des créatures. Il voit des créatures poilues en train de se taper la poitrine et noires. Il ne sait pas ce que c'est. C'est l'inconnu. L'inconnu. Et il va les appeler Gorilla Gorilla. Gorilla Gorilla, en carthaginois, ça veut dire femme. Femme velue. C'est-à-dire, comment ça s'est fait? Comment l'inconnu a essayé de conceptualiser quelque chose? Mais ça, c'est quand même 5 siècles avant Jésus-Christ. Hein. On peut penser que voilà, c'est pas le même rapport au monde. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a... Il y a un chapitre très très intéressant dans votre livre, au niveau de la magie et du politique, c'est l'instant où on fait venir Robert Houdin, oui, en Algérie. Robert Houdin, c'est un magicien, le grand magicien du
immensément connu.
C'est Troisième République.
Troisième
République, immensément connu.
Second Empire,
il faut vérifier.
1850, oui, 60.
Et donc c'est extraordinaire, on le fait venir en Algérie pour qu'il montre que c'est la raison, qu'on vit sur la raison et non pas sur les croyances indigènes. Allez-y.
En fait, tout ce courant qu'on pourrait appeler, disons, de laïque, rationaliste de la pensée française, présentait d'abord toute religion comme émanation de la déraison, de l'aliénation mentale, etc. Mais à plus forte raison, l'islam. L'islam a été de tout temps, et je dis bien avant la colonisation, puisqu'à mon avis, l'hostilité à l'islam ou l'islamophobie, pour ceux qui acceptent ce mot, remonte à mon avis aux croisades. Bon, enfin, je ferme cette parenthèse. En tout cas, l'idée que l'islam était une religion basée sur des croyances déraisonnables et insatisfaisantes, a amené un certain nombre d'autorités, et parmi lesquelles le gouverneur général de l'Algérie, a invité Robert Houdin. Donc, Robert Houdin, à qui on pourrait le comparer aujourd'hui, il était immensément connu. Alors, avec bien sûr les moyens d'information de l'époque, mais en tout cas tout le monde connaissait les tours de magie de Robert Houdin, qui étaient, semble-t-il, particulièrement spectaculaires. Et Robert Houdin vient en Algérie et il fait effectivement un certain nombre de tours de magie, mais les autorités invitent les responsables, les autorités, les élites indigènes, comme on disait à l'époque, et pour montrer que finalement la magie européenne était supérieure à la religion des indigènes, donc supérieure à l'islam. Donc c'était une façon de combattre d'une façon très très militante, quasiment un esprit de croisade, contre l'islam. Donc ça peut paraître aujourd'hui...
Mais ça veut dire faire venir, enfin, le cartésianisme.
Oui, voilà.
Par le phénomène d'un magicien.
Par le phénomène d'un magicien.
Ce qui est un paradoxe extraordinaire.
A priori, plutôt irrationnel.
Oui, plutôt irrationnel.
Voilà. Mais bien sûr. Oui, mais bien sûr. Mais bon, ça, c'est notre regard d'aujourd'hui. Mais les gens qui ont été à l'initiative de ça, et Robert Houdin lui-même, qui en parle dans ses mémoires, d'ailleurs, la page que j'ai reprise vient de ses mémoires, croyaient sincèrement, fermement, qu'il suffisait de montrer l'inanité des religions indigènes. Mais ce que je dis sur l'islam est vrai également pour les religions d'Afrique subsaharienne, donc qui étaient considérées comme fétichistes, qui étaient considérées comme... regardez la façon dont Tintin au Congo observe la différence entre le sorcier, parce que... Un responsable d'une religion indigène ne peut pas être quelqu'un qui a toute sa raison, tant qu'il est forcément sorcier. Donc les fétiches qui, entre parenthèses, étaient subtilisés en voyant en Occident, les fétiches de l'art nègre, lorsqu'on dit art nègre, c'est pas péjoratif, le terme est employé, étaient considérés comme des preuves l'infériorité de ce qui ne pouvait pas être considéré comme des religions. C'était des croyances, tout comme ces gens-là n'avaient pas de langue, ils avaient des idiomes, enfin, etc. etc. On pourrait...
Dans votre livre, à un moment donné, je sais pas où vous avez mis ça, il y a le mot badin. Il y a le mot badin. quand vous dites, bon, on dit, il y a des horreurs qui se passent, et puis les gens prennent ça sur le ton, il n'y a aucun problème. Et là, c'est toujours la revue Empreinte, là, c'est tiré « Vente aux enchères d'esclaves à Savannah, Géorgie » en 1859. Hein. Alors, et c'est intitulé « La valeur d'un œil sur le marché ». Guy Lowe, 419. « Un excellent jeune ouvrier a été vendu pour 1 280 $ en étant sans défaut. Il avait seulement 20 ans et il constituait un article de premier choix. Son voisin, Andrew, Lowe 420, était son égal en tout point, en taille, en âge, en habileté et sur tous les plans. Sauf qu'il avait perdu un œil. Andrew a été vendu seulement pour 1 440 $. De cela, nous pouvons conclure que la valeur sur le marché d'un œil dans le sud est de 240 $. Tout ça est raconté de façon badine, on se croirait... voilà.
Au marché aux puces.
Et c'est ce qui sort de votre livre. C'est pour ça que je parlais un peu tout à l'heure de Feydeau. Voilà, bon, c'est comme ça. Voilà. Il y a un esprit, voilà. Bon, on va continuer dans notre voyage. On va écouter un peu de musique. Et oh là là, hein, vous savez ce qu'il va falloir faire. Hein. D'accord, merci.
Eh ben au 01 43 71 89 40, toujours sur Radio Libertaire, bébé Biki là.
C'est reparti.
C'est reparti.
Allez, juste un tout petit extrait. Un paysan oromo, un pauvre africain, face aux soviétiques, face aux américains, un simple gala, un enfant de château. Elle ne mentait pas, votre cinquième roue du carrosse. Vous tous, vous l'attendiez à l'aéroport. Vous partiez conquérir Rome. Vous ne l'aviez pas vraiment choisi puisqu'il remplaçait le grand Wami Beratu qui s'était blessé juste avant le départ. Et s'il ne s'était pas blessé, celui-là, aurait-il fait mieux que mon ABB si c'était lui qui était monté sur l'autocar? Et s'il n'avait pas gagné, mon ABB, y aurait-il eu autour de lui tous ces Éthiopiens, tous ces Kenyans pour confisquer aux Blancs le podium du marathon? Et pour la première fois, j'allais quitter mon mari. Et c'était toi, le Suédois, qui me le prenait.
Voilà. Bon, on ira le voir ensemble quand ça passera à Paris. Hein,
on peut aller jusqu'à Orléans quand même.
Il y a, dans ce livre, on s'aperçoit que nos bons politiciens qui apparaissent comme nimbés de grâce ou de virginité, comme des gens comme Jules Ferry ou Clémenceau, c'est des gens qui ont trempé dans le colonialisme sérieusement.
Oui, avec d'ailleurs des évolutions dans le cas de Clémenceau. Mais bon, vous vous souvenez quand François Hollande a été élu, le premier hommage qu'il a rendu, c'était à la statue de Jules Ferry. Donc je ne veux pas faire de mauvais procès à François Hollande, il y a d'autres choses à lui reprocher, mais on n'est pas là pour ça. Bon, il a voulu saluer évidemment le père de l'école publique, un grand nom de la laïcité, et il a eu raison, ça, on ne peut pas le lui reprocher. Mais on a quand même été un certain nombre à être un peu surpris quand même de ce choix. Parce que Jules Ferry a été le premier homme politique qui a osé à la tribune de l'Assemblée nationale, ce qui s'appelait d'ailleurs la Chambre des députés à l'époque, en juillet 1885, de dire qu'il y avait le devoir pour les races supérieures de civiliser les races inférieures. Il a employé l'expression qui était contestée par Clémenceau à l'époque. Clémenceau a eu des évolutions après. Mais donc, en fait, regardez par exemple un certain Paul Bert. Aujourd'hui, c'est un nom très connu. Il y a des avenues Paul Bert, des rues Paul Bert un peu partout. Il y a des écoles Paul Bert. C'était également.
Il y a un marché aux puces aussi, Paul Bert.
Oui, bah, voilà, par exemple, oui. On a dû fréquenter un certain nombre d'entre nous. Paul Bert a été un défenseur de la lui aussi du racisme dit scientifique. Il a écrit, bon, je vous dis pas la totalité du texte, 1888. Les Blancs sont plus intelligents, plus travailleurs, plus courageux, etc., que les Nègres africains, les Rouges. Il faut bien savoir que les Blancs étant... Alors, je reprends la citation totale. Il faut bien savoir que les Blancs étant plus intelligents, plus travailleurs, plus courageux que les autres, ont envahi le monde entier et menacent de détruire ou de subjuguer toutes les races d'inférieurs. Il le déplorait pas, il le souhaitait. Et donc, c'est dans un livre qui s'appelle « La deuxième année d'enregistrement scientifique » qui a eu 64 éditions, par exemple. Moi, j'ai consulté la 18e. 64
vous
éditions.
Vous n'avez pas l'impression que ce retour à ce que vous appelez le scientifique, là, quand on entend Zemmour... qui nous dit que les femmes n'ont pas des cerveaux faits pour le pouvoir, on n'est pas loin de ça.
On n'est pas loin de ça. Bon, avec cette particularité que, fort heureusement, bon, Zemmour, malheureusement, est suivi par un grand nombre de Français, si on en croit les sondages et puis les opinions parfois qu'on entend par-ci, par-là. Mais fort heureusement, il y a également une force de résistance. Bon, je veux dire, à part quelques abrutis, oser dire que les cerveaux des femmes ne sont pas les mêmes que les cerveaux des hommes, oser dire que que les nègres sont inférieurs, etc., c'est quand même plus difficile à faire passer. Ce que je veux bien faire comprendre, c'est que à l'époque coloniale, c'était des opinions qui étaient immensément majoritaires. Donc immensément majoritaire, qui était dite avec par tout le monde, avec les oppositions qu'on a citées, les anarchistes, les syndicalistes, les communistes, les surréalistes, certains intellectuels marginaux, marginalisés. Mais malgré tout, ils ont eu ce courage. Mais ce qui était entendu par chacun, compris et accepté par chacun, c'était cette théorie du noir brave mais pas très courageux, du jaune un petit peu dangereux parce qu'un peu fourbe, de l'arabe à qui on pouvait jamais faire confiance, la sexualité des colonisés, des hommes colonisés était toujours source d'inquiétude voire même de violence. Enfin, toutes ces choses là étaient partagées.
Dans le chapitre, j'ai perdu moi. Je vais le retrouver. Alors, 1885, France-Paris, Ferry, le Tonkinois. On voit l'évolution de Clémenceau. Clémenceau, quand il est jeune, mm-hmm. il a des relations avec Louise Michel, maire de Montmartre. Et puis, il va virer.
Ah bah, totalement.
À tous les niveaux, au niveau social.
Bien sûr, il a tiré sur les grévistes, etc. Bien sûr.
Mon cher Alain Russiaux, votre livre est très précis, avec les petites notes à chaque fois. Et là, brusquement, je trouve dans votre livre une absence de notes. Alors, je vous explique. Dans ce chapitre, vous nous montrez comment des gens virent. Clémenceau vire. Ouais. Et à un moment donné, vous faites allusion à Gustave Hervé. Et là, pas une note de votre part. Mais vous voyez ce que je veux dire.
Oui, bien
d'accord,
sûr.
C'est pas bien, monsieur. Gustave Hervé est un phénomène. Est un phénomène... Non, vous pouvez y aller, là ?
Oui, bien sûr. Bon, en fait, moi, j'ai enseigné pas mal d'années dans le secondaire. Je disais toujours à mes élèves qu'il y avait une quantité invraisemblable d'hommes politiques, enfin de femmes aussi, mais enfin à l'époque c'était surtout les hommes, des hommes politiques qui avaient commencé à gauche et qui avaient fini à droite, voire même à l'extrême droite. Et donc Gustave Hervé en fait partie. J'ajoutais toujours, il y a deux exceptions, mais qui rattrapent tout le reste, c'est Jaurès et Victor Hugo. C'est quand même pas mal que ces deux hommes soient passés, eux, plutôt considération plutôt, disons, traditionnelle, voire conservatrice.
Hugo, c'est magnifique. Il part royaliste et il finit vraiment de l'autre côté. Hein.
Bon, et Jaurès aussi. Oui. Alors Gustave Hervé, il fait partie de cette pléiade de gens qui ont commencé. Mais si vous voulez absolument me titiller, parce que j'ai du répondant.
D'accord. Allez-y.
Félicien Chalet, par exemple. Oui. Félicien Chalet, qui a été le leader de la tendance de gauche de la Ligue des droits de l'homme, qui était un indépendantiste, un défenseur des indigènes absolument superbe, remarquable, courageux, a fini par pacifisme. Alors ça, c'est des... A fini finalement dans les rangs de la... si ce n'est de la collaboration, en tout cas de la complaisance avec l'occupation allemande, parce qu'il était hyper pacifiste. Donc, il y a plusieurs cas de figure, mais bon, je retiens plutôt les...
Moi, je parlais... je plaisantais, mais... Gustave Hervé, c'est le type même de l'absurdité politique, parce qu'à la fin de sa vie, il est philo-sémite, mais en même temps, il se réclame de Mussolini, il a signé des tracts, il a rejoint le maréchal Pétain, hein, en même temps, rien ne tient debout, quoi.
Oui, mais bon, lisez ses pamphlets. Même Jaurès a eu parfois du mal à le défendre avant 1914, parce que il avait des pamphlets qui étaient d'une violence anticléricale, antimilitariste, anticolonialiste, anti-française. Il s'est réclamé ouvertement de l'anti-France.
Mais il était très sympathique au départ.
Oui, mais bon, c'était vraiment le. C'était vraiment le. Mais bon, je pense qu'il laissait sa plume courir au fur et à mesure.
C'est un intellectuel, au départ. C'est un intellectuel.
Mais ça préserve de rien. L'être intellectuel ne préserve pas d'être borné. Je peux vous citer des noms.
C'est le seul reproche que j'avais à faire dans votre livre qui fait 600 pages. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. C'est pas mal. Par contre, ce que je voudrais, avant qu'on se quitte, et puis une dernière... Oui, on peut faire une dernière fois tout à l'heure, non? Un tout petit bout? D'accord. Est-ce que c'est ce... Oui.
Ah oui.
Cette chose magnifique, là...
Bien sûr, on est à la radio, donc évidemment, c'est un livre sur les caricatures.
Alors, allez-y, comment vous voulez...
Il se trouve que, en dehors du fait que j'écrive et que j'accumule la documentation écrite, j'ai également une documentation iconographique assez importante, que c'est mon principal plaisir et ma principale dépense. Donc, depuis 30, 40 ans, je vais dans des foires à la brocante, donc, y compris à Paulbert d'ailleurs, dans des foires à la brocante, à Brassens par exemple, acheter des chromos, des cartes postales, des vieilles revues. Et un jour, j'ai eu l'idée de proposer ça à un éditeur. Donc, l'éditeur s'appelle Cercle d'Art, qui est particulièrement... qui est particulièrement porté sur la publication de beaux livres. Et lorsqu'ils ont vu ce qu'il y a dans ce livre, c'est à peu près un 20e ou un 30e de ma collection. On a fait une sélection. Donc, ce ne sont que des caricatures de presse ou des dessins de presse.
Et ça recouvre quoi
C'est un petit peu dans le même esprit que mon livre sur les textes. C'est un petit peu de montrer ce qu'était pour les Français moyens la propagande coloniale, l'image des indigènes. Alors ça va du dessin de presse. Donc parfois, bien sûr, c'est honorable quand il s'agit de l'assiette au beurre, mais il y a également des dessins de presse qui sont absolument d'un racisme absolument épouvantable. Par exemple, sur l'anthropophagie des Noirs, il y avait des choses, c'est des sous forme de plaisanterie, des choses qui sont absolument insupportables aujourd'hui, qui auraient dû l'être dès l'époque. Il y a l'image de l'arabe fourbe, il y a l'image de la cohabitation au quotidien, donc les coups de pied aux fesses, tout ça fait que... Et sur des supports qui étaient infinis, les protège-cahiers de l'école publique, les buvards, les images qu'on distribue aux enfants des écoles, les vignettes du chocolat, c'est moi, pour les plus anciens des auditeurs, ils doivent se souvenir de ça. Les gens achetaient des tablettes de chocolat, ils avaient des vignettes qui collaient sur des albums, et il y avait des représentations des indigènes.
Vous regardez plus connu Banania.
Alors Banania, bien sûr. Hein. Banania ne figure pas dans mon livre parce que c'est tellement connu, mais c'est évidemment l'image.
Mais comment cette image a réussi à traverser le temps?
Mais bien sûr. Et comment ça a été en même temps un support à des... comme quoi on retrouve l'histoire économique et sociale partout, c'était également un support à l'édification de fortunes considérables sur le dos des gens qui le brave tirailleur Banania, il était si brave que des milliers d'entre eux sont morts dans la guerre de 14.
C'est quoi les grands textes contre le colonialisme encore à lire? Césaire, discours sur le colonialisme.
Alors moi, je dirais, si je devais faire un tiercé, non pas par ordre d'importance, mais par ordre chronologique, je dirais d'abord le procès de la colonisation française, Nguyen Ai Quoc. Mais Nguyen Ai Quoc, ça ne dit rien aux gens, c'est Ho Chi Minh, hein, c'était son premier pseudonyme. Pamphlet qu'il a écrit qu'il a publié en 1926.
Il a écrit en français ou...
Il a écrit en français. Il écrivait très bien le français, il parlait très bien le français. Donc 1926, hein, donc. Le second c'est Aimé Césaire, 1950, le discours sur le colonialisme, magnifique texte.
Vous l'avez lu, non?
Oui, tout à fait.
C'est magnifique, non?
Oui, tout à fait.
Bah, c'est un classique.
Ouais. Et on se disait en antenne, il y a quand même ce courage qu'il a eu, parce qu'il est déjà député en 50, il est sans pitié pour la politique Blancs, et il va à la Chambre des députés en ayant écrit ce pamphlet.
Magnifique, Césaire. Il a un très grand courage.
Et le troisième?
Et le troisième, c'est Fanon. C'est les données de la Terre.
On n'en avait pas parlé, ça.
On peut pas faire l'économie de Fanon.
Puis je vais quand même pas oublier Martin Luther. Voilà, c'est un très beau tir groupé, un Vietnamien, deux Martiniquais. Et puis bon, là on parle des brochures, mais il y a quand même des livres écrits par des Européens. Lisez par exemple le livre d'Albert Londres, Terre d'ébène, qui dénonce la véritable moisson humaine que nécessitait la mise en place des voies ferrées, par exemple. Lisez André Gide, lisez André Violis. André Violis, aujourd'hui un petit peu André E, c'était une femme Violis. Lisez certains textes de Malraux également. Lisez Aragon, lisez Breton. Voilà beaucoup d'intellectuels qui ont sauvé, en quelque sorte, l'honneur du monde intellectuel français.
Donc, le livre en quatrième de couverture, là, il y a plusieurs adjectifs qui le qualifient. Il y a le mot drôle et le mot glaçant.
Et oui, c'est glaçant et drôle en même temps. Il y a certains épisodes que vous avez là. Effectivement, c'est drôle, mais tellement c'est bête. Mais en même temps, ça fait froid dans le dos.
Oui, ben voilà.
Ça fait froid dans le dos.
Mais je crois que c'est un petit peu normalement le travail de l'historien de montrer que des choses qui avaient été acceptées par certaines générations aujourd'hui font froid dans le dos. Essayer de recontextualiser chacun des textes en montrant qu'effectivement c'était partagé par beaucoup de monde. Et bon, on parlait de bêtises à l'instant. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure sur les footballeurs. Ça fait rire aujourd'hui. Mais combien ça a pu mener des gens à des impasses à partir du moment où ils s'apercevaient que la réalité démentait de plus en plus.
Petite parenthèse pour rester dans la cohérence de l'émission. Là, il y avait un reportage, je ne sais plus quand, comme quoi ces jeunes athlètes kényans qu'on allait acheter, qu'on faisait courir, puis une fois que ça fonctionnait plus, qu'ils étaient trop âgés, on les renvoyait avec une deux chevaux ou avec autre chose. Et pareillement pour les footballeurs, hein.
Bien sûr.
C'est une forme d'esclavagisme quelque part, faut pas croire. Hein. Alors, histoire ordinaire et extraordinaire du temps des colonies, Alain Ruscio, édition Manifeste. Hein, puis moi j'ai lu, ça se lit avec plaisir un peu ça. Avec grand plaisir. Et puis, on va revenir au terme, c'est très édifiant. C'est catastrophique. C'est catastrophique pour toute une forme de culture, de politique et tout.
Si je peux me permettre, à mon avis, ça explique beaucoup de choses sur l'impréparation française à la décolonisation. Parce qu'il y avait, cet esprit colonial avait tellement imprégné les populations françaises que, en 45, quand l'ère de l'écroulement général des colonies est arrivé, dans certains pays, ça s'est passé d'une façon relativement pacifique. Je pense à la décolonisation de l'Inde, par exemple, alors que la France est arc-boutée sur ses colonies, a mené deux guerres. Il faut quand même savoir que la France, en sortant de la Seconde Guerre mondiale, a immédiatement entamé une guerre en Indochine.
En Corée, c'était
pas une guerre coloniale, c'est encore autre chose.
D'accord.
En Indochine, de 45 à 54, et en Algérie, de 54 à 62. Pendant 17 ans, la France a encore été en guerre parce qu'elle voulait préserver cette domination de l'homme blanc.
Et on va finir avec un bébé Bikila, quelques mots, et puis en rappelant tout ça. Hein, voilà.
Alors, je vais me mettre debout parce que c'est quand même plus simple.
Vous n'allez pas courir ?
Non, pas du tout, mais être comédienne assise, c'est un petit peu compliqué. J'aimerais lui dire tout ce qui s'est passé depuis qu'il n'est plus là. Lui raconter comme une fable le monde qu'il n'a pas eu le temps de connaître. Et puis quoi ? Lui dire ce qui se serait passé pour nous s'il n'avait pas eu ce maudit accident. S'il n'était pas allé à Rome ou à Tokyo, que serions-nous devenus ? Et si la maudite coccinelle offerte par l'empereur pour ses prouesses à Rome ne s'était pas retournée pour lui casser le dos et lui briser les jambes ? Depuis tout ce temps, c'est comme s'il courait toujours, dans une bienheureuse éternité.
Magnifique, oui. Alors, belle. On va le voir à Paris bientôt.
Oui, très bientôt.
Oui, c'est sûr ou c'est...
C'est très sûr. Alors, je n'ai pas encore les dates ni le lieu, mais nous avons reçu donc l'agrément de Paris 2024 qui nous accompagne sur ce projet. Et donc, ce n'est pas rien. Et donc, pour la saison 2022-2023, nous aurons des représentations sur Paris.
Yannick Raymond, c'était un plaisir. Un grand
moi
plaisir.
De même.
Monsieur Ruscio aussi, vous pouvez revenir avec votre livre qui sera sur Aragon, puis on se fera une
plaisir.
Grande émission.
Avec
et
plaisir.
Merci à Monique, bien sûr.
Enfin, merci à Monique. Merci Monique.
D'accord.
cœur. Si on est seul, mon cœur qui bat à perdre haleine, je me demande si ça vaut la peine, si ça vaut la peine. Mais je vois mes enfants qui rient et je dis oui. De recevoir la lettre presque anonyme, juste signée, qui annonce qu'on va nous mettre à la porte, nous les derniers. On restait quoi? Une trentaine dans les trop vastes ateliers. Chômage, deux jours par semaine et l'angoisse d'être viré. Il paraît qu'au Brésil, le sang des ouvriers coûte moins cher, même qu'ils disent merci quand on leur donne une paix de misère. On croyait vivre comme des hommes. On n'est que des bêtes de somme. Dans nos doigts naissaient des merveilles. Je n'ai rien oublié depuis. On faisait des équipes et des veilles, tout ça pourquoi, tout ça pour qui? Déjà dans les rues du village, on ne voit plus que des vieux traîner. En souriant, ils disent, à notre âge, on sait que l'on nous a trompés. Trimer une vie tout entière, bâtir la maison, la cité, avec ça le droit de se taire. À la fin, voir tout s'écrouler, on croyait vivre comme des hommes. On n'est que des bêtes de somme. Jean-Paul retrouvera sa France, l'Italie attend Mario. Manuel en Espagne pense trouver quelques petits boulots. C'est comme après une défaite, on se disperse au vent qui pleure. D'autres, bien sûr, fortune faite, sont partis vers des cieux meilleurs. Déjà les usines sont vides, le crépi tombe sur les murs, la pluie a dessiné des rides. Faut apprendre que rien ne dure. On croyait vivre comme des hommes. On n'est que des bêtes de somme. On croyait vivre comme des hommes. On n'est que des bêtes de somme.
Dites-moi où, dans quel pays, est Flora, la belle romaine, Archipia d'Anétaï, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant cambrouillon mène, de sur rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïs, pour qui châtre et fut et puis moine, Pierres Bayard à Saint-Denis, pour son amour eut cette Essoine. Semblablement, où est la reine qui commanda que Buridan fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? Fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? la reine blanche comme Lys qui chantait à voix de sirène. Berthe au grand pied, Biétrice Alice, à Rambourgis qui tint le Maine. Et Jeanne la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan? Où sont-ils vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan? Prince Nanquéré de semaine, où elles sont nées de 7 ans, que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan? Que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan?
Où sont donc les peuples qui meuglent dans la rumeur et dans les rues? Et les poings vers le ciel aveugles, et la parole toute nue, qui marchait comme une tempête, au rythme de l'espoir têtu, avec les rires de la fête, la colère des vaincus.
On chantait une chanson, tous ensemble à contrevent, en repoussant l'horizon, à grands pas vers le couchant. On allait à l'unisson, les enfants marchaient devant, le cortège était si long, où êtes-vous maintenant?
Où sont nos lendemains qui rêvent, et le partage de la vie? Où reste l'arme de la grève, pour croire un peu à l'infini? Petites gens de nos barrières, humains fragiles des taudis, où sont vos sœurs, où sont vos frères qui protégeaient vos survies?
On chantait une chanson, tous ensemble à contre-vent, en repoussant l'horizon, à grands pas vers le couchant. On allait à l'unisson, les enfants marchaient devant, le cortège était si long, où êtes-vous maintenant?
Voilà le temps qui nous bouscule et nous pousse vers le fossé. Et nos colères minuscules sont bien rangées sous les pavés. Nous protestons comme la lune, légèrement et sans bouger. Le peuple danse avec la brume, s'évapore sans broncher.
On chantait une chanson, tous ensemble à contre-vent, en repoussant l'horizon, à grands pas vers le couchant. On allait à l'unisson, les enfants marchaient devant, le cortège était si long, où êtes-vous maintenant? On chantait une chanson, en repoussant l'horizon. On allait à l'unisson, le cortège était si long, où êtes-vous maintenant? On chantait une chanson, tous ensemble à contre-vent, en repoussant l'horizon, à grands pas vers le couchant. On allait à l'unisson, les enfants.
Dans la cuisine, je me suis retrouvé nez à nez avec mon fils et sa petite mine fatiguée. Moi je lisais mon pain grillé tout en trempant mon journal dans un grand bol de café tapis d'âne. Lui me regardait fixement avec mon nez en point de mire, c'était plutôt déconcertant, voire même pire. Mon tout petit psychopathe a enfin bougé les babines pour dire que sortait une patte de mes narines. C'était une patte d'araignée qui, comme tout chacun sait, fait souvent son nid douillet dans un nez. Je lui ai dit que c'était du poil, mais dans le sien y avait des loups. Il m'a cru un temps tout pas devenir fou.
enfin mouché, on était déjà bien en retard. Je lui ai dit un peu énervé, y'en a marre. On va se toucher sans rechigner, il est compresto mon petit pote. Mais quand on s'est déshabillé, rebelote. Et là c'était mon entrejambe qui posait l'homme. J'étais tracave à la question déconcertante, c'est quoi ça? Comme dans la pub pour le lait, j'aurais pu feindre ces questions. Mais là franchement, autant pisser dans un violon. Il voulait une réponse concrète qui soit un petit peu rigolote. Fallait que je dise ici c'est zette ou caca chiotte. C'est ce que j'ai fini par dire et ma femme en gueule. C'est franchement pas des choses à dire à un mouflet. Dans la salle de bain, je me suis dit, va y avoir du sport. Je marmonnais, me frottant les mains, vas-y encore. Il s'est mis à lorgner sa mère, sa nudité la plus parfaite. Quelque chose semblait lui déplaire, j'ai dit chouette. Et puis en montrant du doigt des milliers de pattes d'araignée, lui a dit, pourquoi t'en as plein là, mais pas dans le nez. Elle me dévisageait, j'ai dit, c'est vrai, quel joli nid. Mais elle m'a dit, fais pas ton niais devant le petit. Tu ferais mieux de te rhabiller et de sérieusement t'en mitoufler. Et t'as, je ne pas oublier ton cache-nez. Le soir en me mettant à table, allez savoir si fait exprès, toujours est-il que je mangeais les crabes qu'en plus c'était des araignées.
Abattus, les longs angélus se sont tus sur la nature défleurie. Faites s'abattre des grands cieux les chers corbeaux délicieux. Armée étrange aux cris sévères, les vents froids attaquent vos nids. Vous le long des fleuves jaunis, sur les routes aux vieux calvaires, sur les fossés, sur les trous, dispersez-vous, ralliez-vous, par milliers sur les champs de France, où dorment des morts d'avant-hier. Tournoyez, n'est-ce pas l'hiver, pour que chaque passant repense. Sois donc le crieur du devoir, ô notre funèbre oiseau noir. M'a perdu dans le soir charmé. Laissez les fauvettes de mai pour ceux qu'au fond du bois enchaînent. Dans l'herbe d'où l'on ne peut fuir la défaite sans avenir.
Sur cette route qui va de mirage en déroute avant de pouvoir dire tout bas parce que c'est toi, parce que c'est moi. Long, si long ce voyage là. J'ai dit que tout cela ne doit rien au hasard, rien à la chance. J'ai dit que sur ces chemins d'errance, on se suivait depuis longtemps. Je t'aimais avant de t'aimer, je t'aimais avant de t'aimer.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Donc aujourd'hui, nous recevons, en l'absence de Nicolas, mais il va bientôt nous revenir dans la prochaine émission, Philippe Diaz, qui est déjà venu dans notre studio, pour présenter notamment un Gitmo. D'ailleurs, il nous dira, je pense, si on peut toujours voir ce film. Et puis aussi, la sortie d'un livre sur le curé Jean Mélier, voilà, qui avait profité de son séjour en France. Et aujourd'hui, c'est nous qui pourrions... Profitons de son petit séjour à Paris, puisqu'il vient de Los Angeles et puis il repart sur la Suisse. Voilà, bon, bah, Philippe, merci d'avoir profité de ton passage pour faire une émission avec toi. Alors, initialement, on voulait faire une tranche de vie qui tourne beaucoup autour du cinéma, mais pas que, sans doute. Mais bon, compte tenu de l'actualité aux USA, on consacrera la deuxième partie de l'émission, justement, un petit peu à l'actualité, vue par Philippe. Voilà, Philippe, bah, peut-être avant que tu fasses ton... Tu nous dis pourquoi tu vas en Suisse, peut-être.
Mais avec plaisir. Et pourquoi je suis là. D'ailleurs, merci de m'accueillir une fois de plus. Je suis très heureux d'être là et de faire tout ce qui est possible pour aider Radio Libertaire, comme les chroniques pour le monde libertaire et tout ça que je fais aussi. Donc, c'est avec grand plaisir. Alors, d'abord, je vais aller dans les Ardennes parce que je vais essayer de faire un film aussi sur le curé Jean Mélier. Après le livre, parce que je pense que c'est pour ça un peu que j'ai toujours, comme on parle de tranches de vie, c'est un peu pour ça que j'ai aussi choisi le cinéma, parce que je pense que le cinéma, c'est une manière plus facile de convaincre les gens que le livre. Si tu veux, c'est vrai, acheter un livre, le lire et tout ça, c'est un vrai effort. Les gens, c'est beaucoup plus facile. Surtout aujourd'hui, tu vois, ils voient les films sur leur... C'est pas ce que je conseille, mais ils voient les films sur leur écran de portable ou sur leur télévision, bien sûr, ou sur leur ordinateur. Donc, c'est très simple. Et c'est plus simple de les convaincre. Donc, je vais essayer de convaincre les gens de la région des Ardennes de faire un film, de me laisser faire un film sur le curé Jean Mélier, un film de fiction, bien sûr. Et après, je vais aller donc voir nos amis d'Espagne Noir à Saint-Imier pour deux choses, pour faire la présentation du livre que j'ai pas fait en Suisse encore et montrer le film I Am Gitmo, mais aussi pour continuer les recherches sur un sujet qui me passionne beaucoup, qui est la société anarchiste qui avait créé les Horlogers du Jura et qui a duré grosso modo 80 ans quasiment, et ça on oublie toujours et on le sait très très peu, hein, puisqu'on en avait parlé la dernière fois, il y a même des anarchistes convaincus qui ne connaissent absolument pas cette période, et je pense que c'est fascinant, parce que non seulement ils avaient réussi à créer une société qui fonctionnait et qui a duré 80 ans, c'est pas quelques mois, là. Et puis, bien sûr, ils ont mis Marx en échec pour la Première Internationale, ce qui est aussi une histoire fascinante, quoi. Donc, voilà, c'est ça la raison d'aller en Suisse.
D'accord. Donc, bah, on va voir